Alors, nous sommes dans Parlons Ferme avec Lucien Breton, qui est un personnage iconique de l'agriculture. Ceux qui ont écouté le premier segment, vous en avez connu un petit peu plus sur Lucien Breton, son père Napoléon, sa famille et ses origines de Saint-Bernard-de-Beauce. Mais il y a quelques décennies, moi je dirais Lucien Breton, vous étiez un combattant de la mise en marché unique face à FEDCO, qui est la Fédération des producteurs des œufs. La FEDCO, en fait, avait fait une offensive. C'est une offensive de la Fédération des producteurs des œufs de consommation qui voulait prendre le contrôle de la mise en marché. La mise en marché et, entre autres, de tous les postes de mirage, en fait. Peut-on dire qu'à cette époque, vous étiez déjà un défenseur d'un modèle indépendant?
Naturellement, parce que à ce moment-là, je pense vous avoir dit que mon premier poulailler a été construit en 64, 13 000 pondeuses, suivi d'autres poulaillers en 1965 et d'autres en 1966, l'année où les quotas, la production sur quota a été votée. Et j'ai pas eu l'autorisation des quotas pour le dernier 42 000 pondeuses, parce que ça s'était arrivé en 66 et les poulaillers avaient été construits en 66. Mais, naturellement, la gestion de l'offre ne rapportait pas aux producteurs ce qui leur avait été promis, mm-hmm. c'est-à-dire des bons prix. Et c'est là que la Fédération a travaillé sur un plan de mise en marché collective. C'est là qu'est arrivée, par exemple, l'agence de vente FEDCO, en 1970.
Puis c'est là que vous avez eu peur de perdre la paternité un peu
Disons que tous les postes de classification au Québec ont été obligés et ont signé avec la FEDCO. Et moi, je n'ai pas signé pour une raison, c'est que si j'avais signé là, on m'aurait défendu de classifier mes œufs de mes 42 000 pondeuses sans quota. Et ça, je continuais à lutter contre ça, là. Et puis, c'est entendu que ça n'a pas eu l'effet escompté dans l'amélioration des prix. Et bien sûr, au Québec, la production des petits producteurs de moins de 100 pondeuses, 200 pondeuses, a continué à être éliminée graduellement, et ce qui était remplacé par l'Ontario. Et puis, la production d'Ontario se limitera. Ce qui arrive, c'est que moi, je suis pas rentré, j'étais le seul à ne pas rentrer dans la mise en marché collective en travaillant comme poste de classification pour l'agence FEDCO. Et c'est là qu'est commencée la guerre, si on peut utiliser ce mot-là, avec l'agence de vente. Mais l'agence de vente, de 1970 à 1972, ça a été dramatique pour une raison, c'est que là, tous les postes de classification d'eux n'avaient plus de clients. Les clients étaient transférés à FEDCO. Mm-hmm. Et eux, ils étaient des exécutants. Toutes les commandes des acheteurs d'eux passaient par le bureau central de la FEDCO qui, elle, disait au poste aller livrer. Je n'ai pas besoin de vous dire que le service a été déplorable.
Mais est-ce que ça veut dire que la mise en marché collective, la gestion de l'offre, peu importe comment on l'appelle dans différents systèmes agricoles, fait en sorte que ça tue toujours un petit peu l'esprit entrepreneurial? Est-ce que le fait d'implanter des mises en marché collectives, c'est contraire au développement de l'entrepreneuriat, en fait?
Ah, naturellement, c'est complètement contraire. C'est que à ce moment-là, les gens, dans le cas qui nous intéresse, les gens n'ont plus de responsabilité. Les postes de classification n'ont plus de clients. Ce sont ils deviennent
Des employés,
ils n'ont pas de décision. Et à ce moment-là, le service à la clientèle était tellement déplorable que ça donnait une chance, parce que ça donne une chance aux concurrents qui venaient soit de l'Ontario ou même du Québec. Par exemple, des distributeurs, et bien, eux autres, ils avaient le droit d'acheter des œufs de l'Ontario, de l'Ouest canadien, de n'importe où. Et où de fait trop, oui. Et puis, eux autres, ils prenaient la place de la Fédération parce qu'ils donnaient un service aux clients alors que la FEDCO n'en donnait pas. Ce que ça a fait, c'est qu'il y a eu. C'est là que ça a commencé la guerre contre la mise en marché collective pour le vrai. Mm-hmm. Ce que ça a fait, c'est qu'il y avait, parmi ceux qui ont signé en 1970 pour être pour travailler pour Faites quoi contrat, c'est-à-dire tous les postes de classification du Québec. Ben là, là, ce qui arrive, c'est que les producteurs, là, vu que la FEDCO ne réussissait pas à tout vendre ses œufs, elle se ramassait avec des surplus qui devaient aller au décroquillage. Et les producteurs étaient rendus qu'ils recevaient leur paye au bout de 8, 9, 10 semaines. Fait qu'ils étaient en train de crever. Fait qu'au lieu de crever, ceux qui, avant ça, classifiaient leurs œufs, ont décidé de recommencer à classifier leurs œufs illégalement avec moi. Parce que moi, j'étais le seul. Mais là, c'est là qu'on a formé une association.
Mais des payes en retard, comme vous dites, dans la mise en marché collective, ça existe dans d'autres secteurs aussi, parce qu'on a souvent entendu parler...
Mais là, c'était la première. Hein?
C'était la première.
C'était la première. C'était l'expérience. Là, on apprenait. Hein? Et puis, pour les agriculteurs, ça fait que...
Puis, ça a été quoi vos tactiques pour contrer ça pendant un temps? Parce que dans votre livre, en fait, dans le livre qui raconte votre vie et le développement de votre compagnie, on parle de certaines astuces dans le système.
Ben, des tactiques, il n'y en avait pas vraiment. Oui, puis il y en avait. C'est que, je peux vous dire en affaire, que ça a été une épopée très épique dans ce temps-là, parce que moi, j'ai vu à quelques reprises deux, trois, quatre vannes venir saisir tous les œufs qu'on avait dans le poste de classification, et ils sont allés aussi chez d'autres producteurs tout saisir les œufs parce qu'on n'avait pas le droit, c'était illégal, hein, de classifier ça. Et puis après ça, ben naturellement, nous autres, ben là, c'est là qu'était revenu, je pense que la question va poser tantôt, M. Pierre Paradis.
Exactement.
Ben, M. Paradis.
Parce qu'il y a un homme, c'est la question que j'allais vous poser. Il y a un homme qui a été important dans votre vie, que les Québécois ont connu par la suite, parce que c'est un homme politique reconnu, il est devenu ministre de l'Agriculture. Mais vous l'avez connu d'abord comme avocat. Puis c'est lui qui a été le défenseur de vos dossiers,
c'est ça? C'est ça. Parce qu'à un moment donné, nous, là, moi, de seul que j'étais au début à m'opposer à FEDCO, on s'est ramassé avec 35-40 individus et producteurs. On a formé une association qu'on appelait l'Association progressive des œufs du Québec. Mm-hmm. Et puis, on s'était regroupés. Et c'est là que M. Paradis, il travaillait pour tout ce beau monde-là, pour nous autres, entre autres. Et lorsque, par exemple, on se faisait saisir tous nos œufs qu'on avait, hein, ben là, on fallait, parce que sans ça, on serait tous crevés là, ben c'est là que... M. Paradis, comme avocat, nous aidait à aller les rechercher avec les tactiques qu'il fallait faire comme avocat. Hein.
Et alors là, vous l'avez connu, bon, en fait, comme avocat, comme ami, j'imagine, par la suite aussi, comme homme politique.
Oui.
Vous diriez, de Pierre Paradis, vous diriez quoi? Qu'est-ce qu'il a changé des vieux modèles et qu'est-ce qu'il a réussi, selon vous, à œuvrer, mettons, dans sa carrière, sa carrière d'avocat ou sa carrière politique, mettons?
Je peux vous dire une chose, hein, c'est que M. Paradis... quand on l'a engagé, nous autres, là, il sortait des études, il n'avait même pas tout passé ses diplômes d'avocat. Hein? Fait qu'il sortait des études, il n'y avait pas de clients. C'était une clientèle à se bâtir. Hein? Fait que, et puis lui, là, sa carrière politique est arrivée après, parce que quand, à un moment donné, vous savez, parce qu'on a réussi, vous le savez, à détruire, si on peut utiliser cette expression-là, le fait de croire, hein? Eh bien, après ça, vous avez les producteurs de porc. Mm-hmm. Avec là, les producteurs de porc voulaient avoir un avocat avec d'expérience dans le domaine, et c'était M. Paradis.
Donc, c'est là que l'expérience dans l'avicole vous a été très utile dans le porcin, parce que finalement, vous ne vouliez pas revivre ce que vous aviez connu dans le monde avicole.
Exactement. Et je peux vous dire une chose, hein, c'est que le plan conjoint des producteurs de porc, là, il ne passait pas parce qu'on s'en occupait face aux producteurs. Et c'est M. Garon qui l'a imposé, avec l'appui, bien sûr, de l'UPA, parce qu'il a fait un cadeau à l'UPA, et puis il l'a imposé aux producteurs, et pour avoir la SRA, qui avait été inventée un peu avant, ben là, il fallait être membre absolument de l'UPA et de l'agence de vente. Sans ça, tu n'avais pas la SRA.
Je crois comprendre qu'en fait, quand on est ministre de l'Agriculture, il faut de temps en temps faire des cadeaux à l'UPA.
C'est ça, exactement. Hein? Ça fait que c'est de même que ça s'est passé. Puis c'est comme ça, parce que là, nous autres, on s'était organisés avec l'expérience qu'on avait eue dans les yeux, on s'était organisés. Et face à l'ensemble des producteurs, le plan conjoint dans le port, il passait pas. Hein? Mais là, avec le fait que l'ASRA, c'est un bonbon, et Ben là, là ça finissait que ça passait, ça, là, à cause que, mm-hmm. à cause que il y avait de l'argent à côté. Et dans ce temps-là, l'ASRA était applicable uniquement aux petits producteurs.
Oui, je pense qu'à l'époque de Garon, c'est ça, en fait, de c'est ce ouais. qu'il explique dans ses mémoires, c'est qu'il avait mis un plafond à 100 000 $ par ferme, qui devait entretenir normalement un fonctionnement à la ferme, et non pas,
ouais, c'est
et non, et non pas une subvention
à la ferme. Les petits producteurs de 250 truies et naisseurs finisseurs, je pense qu'il y avait un maximum de 400 truies, si je ne me trompe pas. C'est, il avait mis des maximums. Ces maximums-là sont disparus sous Bourassa, mm-hmm. parce qu'à un moment donné, les gens ont vu que la production porcine dans l'exportation des produits agricoles du Québec, c'était très important. C'était plus important que le pétrole ou d'autres affaires. C'était plus. Ça fait que c'est là que Bourassa, il dit, on va rouvrir ça. Et c'est là que c'est devenu applicable à large.
À vous écouter, on sent le côté entrepreneur derrière vous, c'est évident. Vous ne semblez pas avoir un souci permanent ou du soutien de l'État ou du syndicat. Vous semblez vouloir vivre comme entrepreneur, en fait. Est-ce que vous trouvez qu'au Québec, il y a trop de place ou au syndicat ou à l'État, en fait, dans notre fonctionnement, en fait?
En ce qui me concerne, moi, si je peux vous dire, c'est que le syndicalisme agricole dans mes productions, là, dans les œufs et dans le poulet et dans le porc, qui était censé protéger la ferme familiale, c'est ce qui l'a détruite. Et on peut pas être sympathique à cette idée-là. Prenez comme là, quand le plan conjoint des œufs a été voté, il y avait quelque chose comme 2700, 3000 producteurs d'œufs. Mm-hmm. Aujourd'hui, je pourrais vous dire que, vous savez, quand le bloc parle de protection de l'offre, de la mm-hmm. gestion de l'offre, mm-hmm. aujourd'hui, je pourrais vous dire, moi, là, qu'il reste à peu près, ben là, c'est à peu près que je dis ça, là, pas plus que 50 familles, dont mm-hmm. un 100, peut-être 150 détenteurs de quotas. Mm-hmm. Et dans la production de poulet grillé, c'est plus, mais pas beaucoup plus. Et puis, dans la production du porc, ben qu'il y avait des milliers, prenez comme nous, à Saint-Bernard, il y avait au moins 75 producteurs de porc dans notre petite municipalité qu'on avait développée. Aujourd'hui, je ne sais pas, là, mais si je les comptais, des indépendants, je vous parle, là, il en reste 10. Hein? Ça fait que ces systèmes-là...
C'est-à-dire que le système, finalement, qui devait protéger l'ensemble des producteurs, protège plutôt un certain
cercle. Parce que je pourrais vous dire, c'est rendu, pour moi, là, que la gestion de l'offre, là, prenez par exemple dans les œufs et dans le poulet, c'est un peu comme, par exemple, lorsque le gouvernement fédéral octroie des licences de diffusion, radiodiffusion, mm-hmm. tout ça. Mm-hmm. Il octroie une licence, tout d'un coup, à vaut des millions. Ben là, les quotas, c'est rendu que c'est à peu près ça. Hein? C'est que c'est pas vrai que c'est pour la communauté agricole, c'est pour une pincée de seigneurs. Mm-hmm. Et puis... qui vivent aux dépens de la population.
Dans votre bataille pour l'indépendance à l'époque de la FEDCO, je vais faire juste un parallèle sur la fin comme ça. Je vois actuellement du Breton qui fait ses démarches auprès de la régie. Est-ce qu'il y a ce côté combatif encore chez du Breton? Je vois Vincent, votre fils, qui est président du Breton, qui est aussi devant des combats en fait, à mener pour faire reconnaître le port de Nice. Est-ce que vous feriez un parallèle entre les batailles que vous avez eues et les batailles qu'il a?
Oui, ça continue, bien sûr, parce que ce qui arrive, prenez comme l'agence de vente là, dans le port, là, eux autres, là, prenez comme nous autres, on est dans le bio. L'agence de vente, eux autres, c'est one size fit à tout le monde, hein? Vous savez, dans l'annonce, là. Mm-hmm. Avec, ce qui arrive, c'est qu'eux autres, du bio, puis de quelque chose de spécial, là, c'est trop de trouble. Tu sais, ça veut dire. Puis ensuite de ça, ben, c'est. Mettons, comme nous autres, là, si on fait du bio ou du certified human, bien là, ça, par exemple, ça porte ombrage à la production industrielle ordinaire. Et ça, ils ne sont pas capables d'accepter ça. Ça fait que c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être sympathiques à nos affaires. Hein? Parce qu'ils disent que quand on parle de production, par exemple, de porc bio sur litière ou de certified human sur litière, bien là, eux autres, ils disent, vous voulez dire... que les producteurs de porc ordinaire, c'est pas bon. C'est ça qu'ils disent. Hein? Puis, officiellement, ils vont dire, on est pour ça, la production bio, mais c'est pas vrai. Dans les faits, je vais te dire comme j'utilise une expression, le geste parle plus fort, tellement fort, que ce qu'ils disent, on ne les entend pas.
Hein? Alors justement, pour terminer, vous avez parlé un petit peu de Pierre Paradis, vous avez parlé de Jean Garon, ouais. Vos perceptions. La perception du ministre actuel, parce que le ministre actuel, il a été très très fort pendant la pandémie sur l'autosuffisance alimentaire, sur les marchés de proximité. Est-ce que vous diriez qu'il y a une efficacité actuellement au MAPAC qui vous convient ou il y a encore du chemin à faire?
Ben, lorsque vous dites l'efficacité des circuits courts et toutes les quêtes, oubliez ça. Le ministre de la Montagne, là, lui, là, ça, depuis 6 ans qu'il est là, là, essayez de me dire ce que c'est qu'il a fait. Hein? Sinon, changer, confisquer la SRA pour en faire un instrument pour financer Olimel à la hauteur d'un demi-milliard. Nommer, par exemple, parce que la régie, c'est supposé d'être un organisme indépendant. Mais il y a huit commissaires, dont 3 ont été nommés par le ministre Garon. Et ces 3-là, ils viennent des associations affiliées à l'UPA. Ça fait que l'objectivité est toute cherchée là.
Alors, ce que je comprends, c'est que le combat va continuer pour Lucien Breton.
Écoutez, on croit à quelque chose. Hein? Comme nous autres, là, on ne reçoit pas la SRA. On a arrêté ça en 2019. Hein? Fait qu'on essaie de vivre sans la SRA. Mais ça, là, ben, c'est pas suffisant, je pense, pour le...
Merci, M. Breton.
Merci.